chez Ixina, votre cuisine est conçue sur mesure. En plus, vous avez un conseiller dédié pour tout votre projet. Et en plus, elle est garantie 10 ans. Ah oui, en plus, en ce moment, 150 euros sont offerts par tranche de 1000 euros d'achat. Ixina, oui à vos rêves. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur ixina.fr.
Est, après l'instabilité d'hier, c'est vrai qu'hier on a eu une journée agitée. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'orage de grêle qu'il y a eu à 16h à Nice, mais c'était très impressionnant. Ah d'ailleurs, oui. Hier après-midi, Nice était la ville la plus froide de France, avec 4,4 degrés.
Alors, pas coutume.
Après l'instabilité de l'Est hier, c'est vrai qu'on va retrouver le soleil sur toute la façade Est entre l'Alsace et les Alpes. En revanche, ça reste toujours très perturbé entre la Côte d'Azur et la Corse.
Merci Annie. Issa Dadi, bon réveil avec Europe 1. Voici votre journal. Europe 1, il est 5h.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Nous irons dans ce journal d'abord à Montpellier, le collège Arthur Rimbaud dans la tourmente. Manifestation des enseignants hier matin pour dénoncer le traitement médiatique de l'agression de la jeune Samara. Europe 1 sur place, dans un instant. Dans le Nord, à présent, cette question, des habitants de Grande-Synthe ont-ils tenté de se faire justice eux-mêmes après le meurtre de Philippe? Un suspect interpellé hier a été passé à tabac vendredi. Explication dans ce journal. À venir également, les coupes drastique dans le budget du ministère de l'Intérieur. Policiers et gendarmes n'échappent pas aux mesures d'économie recherchées par le gouvernement. Et puis Emmanuel Macron pourra-t-il tenir sa promesse de se baigner dans la Seine avant les Jeux Olympiques? À moins de 100 jours du début des Jeux, une station de dépollution doit être inaugurée aujourd'hui. Le journal de 5h, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Rentrée scolaire à la maison pour Samara, l'adolescente de 13 ans, toujours sous traitement selon sa mère. Traumatisée après avoir été passée à tabac à la sortie des cours à Montpellier le 2 avril dernier. Suit la classe à distance, mais au collège Arthur Rimbaud. Elle est au cœur des tensions. Hier, les enseignants se sont mobilisés pour dénoncer le traitement médiatique de l'affaire. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Lhuillier.
Devant le collège, les 80% d'enseignants grévistes sont rassemblés. Leur porte-parole, feuille à la main, défend la copie du corps éducatif.
Nous sommes profondément indignés par les déclarations diffamatoires véhiculées par la majorité des médias et par la famille de Samara et par les récupérations politiques qui nuisent à la réputation de notre établissement.
Des professeurs accompagnés de parents d'élèves acquis à leur cause, comme Saïda, qui enrage contre la mère de Samara.
Pourquoi il a fallu, au bout d'un an et demi, qu'elle se réveille, sa mère? Là, elle a le temps d'aller voir les médias. Mais où étais-tu pendant un an? Il a fallu qu'elle se fasse taper. Il fallait te réveiller avant, donc il fallait surveiller tes enfants.
Un contexte extrêmement tendu dans le collège. Il faut donc à tout prix protéger Samara, sur Christine, sa grand-mère.
Samara, je pense pas qu'elle veut retourner dans cette cage au lion.
Là-bas, on l'attend, à votre avis, ou quoi?
Peut-être que oui, alors on va pas jouer à la roulette russe.
Une adolescente en danger, dans un collège très loin d'avoir retrouvé sa quiétude. L'entourage a donc déjà commencé les démarches pour la changer d'établissement. À Montpellier, Charles Lhuillier, Europe 1.
En Guadeloupe, première nuit de couvre-feu à Pointe-à-Pitre et dans quelques quartiers des abîmes.
Le dispositif lancé à 20h court jusqu'à 5h du matin pour un mois renouvelable. Tout mineur hors de chez lui en court 750 euros d'amende. Couvre-feu pour les moins de 18 ans également en vigueur depuis hier à Béziers dans l'Hérault de 23h à 6h. Mesure municipale soutenue par la population mais qui fait l'objet d'un recours de la Ligue des droits de l'homme.
Le choc et l'inquiétude toujours à Grande-Synthe dans le Nord, une semaine après le meurtre de Philippe, jeune animateur social de 22 ans.
L'enquête se poursuit. Deux adolescents de 14 et 15 ans ont été mis en examen, placés en détention provisoire vendredi. Un troisième suspect, cousin de l'un des deux autres, a été placé en garde à vue hier. Et il se trouve, Lionel Gougelot, qu'il a lui-même été agressé, passé à tabac, déshabillé par des inconnus en pleine rue, en pleine nuit, il y a 4 jours, quelques heures après la marche blanche en hommage à Philippe.
D'abord présenté comme victime d'une sorte de règlement de compte aveugle parce que cousin de l'un des deux assassins présumés de Philippe Copman, l'adolescent de 15 ans est désormais considéré comme suspect dans l'agression barbare qui a coûté la vie mardi dernier à l'animateur de centre de loisirs. Les enquêteurs vont devoir établir son degré d'implication exact dans le déchaînement de violence survenu cette nuit-là. La procureure de Dunkerque l'avait dit, d'autres suspects étaient bel et bien recherchés, peut-être auteurs de précédentes agressions du même type. C'est le sentiment de Kelvin, l'un des frères de Philippe Copman.
Ça prouve que l'enquête à l'avance. Après, comme
je vous ai dit, la vérité, on la sait pas. On sait pas, ils étaient que bien sur mon frère. On sait pas sur les agressions précédentes, ils étaient que bien. Faut démanteler tout le groupe parce que c'est une bande de sauvages, de barbares. Et si on pense à toute la population, il faut attraper toute leur bande et tout l'entourage qui faisait des choses comme ça.
Mais ce qui est troublant dans ce rebondissement, c'est que cela laisse penser qu'à Grande-Synthe, certains étaient au courant, ou en tout cas convaincus, de la responsabilité de cet ado, nouveau suspect dans la mort de Philippe. Des inconnus qui ont voulu faire justice en le passant à tabac et qui n'ont toujours pas été interpellés.
Lionel Gouge, le correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
À Bordeaux, à présent, le chanteur Kenji Girac devrait être entendu par les enquêteurs aujourd'hui, si son état, bien sûr, le permet.
Après sa blessure par balle au thorax, hier matin aux Aurores, sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse, l'artiste de 27 ans a dit s'être blessé seul avec un Colt 45 acheté dans une brocante. La police, pas convaincue par cette version des faits, a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire.
Europe 1 5h05, notre sécurité va-t-elle être sacrifié sur l'autel des économies budgétaires. À l'heure où les finances publiques sont dans le rouge, eh bien le ministère de l'Intérieur subit lui aussi des coupes drastiques.
Mais rien que cette année, moins 20 millions d'euros pour les gendarmes, moins 134 millions pour les policiers. William Molinier, chaque euro compte, quitte à gratter les fonds de tiroir.
Les consignes sont informelles, mais elles essaiment. Les commissariats, les policiers doivent prendre soin des voitures plus que d'ordinaire, car selon les informations d'Europe 1, celles qui tomberaient en panne risqueraient de ne pas être remplacées avant 2026. Le parc automobile pourrait donc être réduit, conséquence des coupes budgétaires dictées par Bercy en raison d'une croissance plus faible que prévu chez les gendarmes. On envisage même de rogner sur le budget essence. Concrètement, cela voudrait dire moins de patrouilles, moins de déplacements et donc moins de bleus dans la rue. Autre répercussion de ces économies forcées, l'arrivée de petits véhicules blindés promis à certaines BRI en région est retardée. À ce stade, Bercy reste ferme et n'entend pas alléger l'ardoise de la place Beauvau. Matignon, de son côté, n'a pas tranché. Les arbitrages ne sont pas rendus, mais tout le monde voit bien qu'il faut aider nos policiers et nos gendarmes dans le contexte actuel, assure un fin connaisseur du dossier. Un bras de fer très politique fait remarquer un policier qui ajoute « À l'heure où la corde se tend, on attend de voir si ce gouvernement est véritablement du côté des forces de l'ordre. »
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Des restrictions budgétaires qui risquent aussi de toucher la rémunération des policiers dans le cadre des Jeux Olympiques. L'organisation syndicale Unité attend la réponse de Bercy et appelle à la mobilisation de tous les policiers mardi prochain.
Mais les Jeux Olympiques, justement, Fanny, c'est l'heure de reparler d'une promesse qui ne date pas d'hier.
J'ai d'ailleurs indiqué que dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre.
Bon, Jacques Chirac est mort avant d'avoir pu mettre un orteil dans la Seine.
Oui.
Et Emmanuel Macron a donc repris l'engagement à son compte juste avant les JO. Le président l'assure, il ira se baigner dans la Seine où doivent se dérouler plusieurs épreuves de natation. Mais encore faut-il que le fleuve soit propre. L'État a débloqué près d'1,5 milliard d'euros pour ça. Ce matin, une station de dépollution des eaux pluviales doit être inaugurée à Champigny-sur-Marne, en amont de la Seine, Cyril de la Morinerie.
Oui, pour tenir sa promesse de réduire de 75% la pollution bactériologique de la Seine pour les Jeux Olympiques, l'État a notamment construit cette station de dépollution, un ouvrage qui retiendra et nettoiera jusqu'à 700 litres par seconde d'eau pluviale du secteur, qui sont chargés de déchets et de bactéries. La Marne, qui se jette quelques kilomètres plus loin dans la Seine, sera alors plus propre. D'autres mesures sont également prises pour permettre aux épreuves de natation marathon, de triathlon et de paratriathlon de se dérouler dans la Seine cet été. Assurée samedi dernier sur Europe 1, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.
On est en train de finir tout le raccordement des péniches, des bateaux au tout à l'égout. La construction de ces infrastructures de collecte des eaux pluviales, et on fera en sorte absolument d'être prêt pour qu'il y ait un spectacle extraordinaire.
Malgré ces annonces, la championne olympique de natation en eau libre reste préoccupée par la qualité de l'eau du fleuve parisien. La brésilienne Ana Marcela Cunha réclame un plan B pour les épreuves dans la Seine.
Cyril de la Morinerie.
Merci Fanny Marceau. Vous serez la première à vous baigner dans la Seine dès que c'est possible.
Oui, oui.
Donc on peut faire un tour avec vous. Hein,
voilà.
Non, mais c'est la température.
On prendra la cachette fleur et on ira.
La température, ça, c'est la
c'est
vraie question.
Oui, c'est vraiment ça.
Merci Fanny Marceau. 5h08. Bon réveil avec Europe 1.
Dans un instant, la revue de presse internationale. Alexandre, on va retrouver les correspondants d'Europe 1.
Oui, le Japon est l'une des rares démocraties à appliquer encore la peine de mort. Nous serons tout à l'heure avec notre correspondant à Tokyo, puisque la justice japonaise confirme même que les condamnés à mort ne seront toujours prévenus de leur exécution qu'au dernier moment. D'abord les courses avec Thierry Léger, c'est votre pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Alexandre, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne et mon pari gagnant sera le 401 Gold Tweet. Défendant les couleurs de Carwin Stud au bon soin d'Ambre et de Grégory Vert, un haras de prestige situé dans l'Orne sur 66 hectares, ce steeplechaser doué, expérimenté, qui aura pour objectif le grand steeplechase de Paris, programmé le 19 mai prochain, va effectuer cet après-midi son ultime sortie préparatoire en haie. Et comme il s'agit d'un sauteur confirmé à Compiègne, quelle que soit la spécialité, il n'aura certainement pas à forcer son talent pour pouvoir ici s'imposer. Alors notez bien pour Compiègne, réunion 1, dans la quatrième course, le numéro 1, Gold Tweet.
Merci Thierry Léger, on va retrouver vos pronostics du Quintet juste après le journal de 5h30 sur Europe 1. À suivre, Omblin Roche, l'histoire dingue d'Anissa Dadi.
Oui, avec un habitant de Royan, cinéphile, qui va se lancer dans un Tour de France très original. Ouvrez l'œil, vous risquez de le croiser dans les prochains mois. Anissa va vous raconter.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe 1, bonjour.
La revue de presse internationale sur Europe 1 à 5h10. Nous sommes d'abord en Algérie. Bonjour Nour Chahine.
Bonjour.
Correspondant d'Europe 1 en Algérie, de quoi parle la presse ce matin à Alger ?
Eh bien, de la hausse des prix des produits alimentaires, particulièrement des aliments importés, nous dit Le Soir d'Algérie. Pourtant, le gouvernement avait réussi à maintenir les prix bas tout au long du mois du Ramadan, rappelle Le Quotidien. Mais une fois le mois sacré achevé, c'est le retour de la spéculation sur les prix, de quoi remettre en cause la stratégie du gouvernement qui consistait à inonder le marché de produits de large consommation, explique Algérie Echo. Le site TSA évoque pour sa part la stratégie du ministère du Commerce qui a lancé une enquête de terrain pour contrôler la structure des prix des produits importés. Les premiers éléments de l'enquête révèlent une hausse injustifiée des prix de certains produits, notamment des bananes. À ce propos, TSA met en titre « Prix de la banane, les premières sanctions tombent ». Seule solution proposée par le ministre du Commerce aux consommateurs, un boycott.
Nous sommes maintenant au Japon avec vous, Bernard Delattre. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Alors, qu'est-ce qui fait la une des journaux japonais ?
La peine capitale. Et particulièrement le fait que les condamnés à mort ne sont prévenus de leur exécution qu'une heure ou deux avant d'être envoyés à la potence. La justice vient de débouter des détenus qui réclamaient un allongement de ce délai. Cette décision effare les quotidiens de gauche Asahi, Mainichi et Tokyo Shimbun. Selon eux, un préavis aussi bref est inhumain et immoral, car il empêche les condamnés à mort à la fois de dire adieu à leurs proches et d'introduire un recours en référé contre leur pendaison. Une juriste interrogée par le Japan Times assimile même cette pratique à de la torture psychologique, puisque les détenus qui se trouvent dans le couloir de la mort se réveillent tous les matins avec la peur au ventre, la hantise de vivre peut-être leur dernier jour. Mais pour les quotidiens conservateurs Yomiuri Sankei, ce sont les crimes épouvantables commis par ces assassins qui sont indignes, et non leurs conditions de détention, que ces deux journaux jugent légitimement sévères.
Dernière étape, nous partons au Chili ce matin avec la correspondante d'Europe 1, Joséphine Echelard. De quoi est-il question dans les journaux du pays ?
Eh bien, de la découverte de plus de 50 nouvelles espèces sous-marines au large des côtes chiliennes. Pendant plus d'un mois, raconte l'agence EFE, une vingtaine de scientifiques ont exploré la chaîne de montagnes sous-marines Salazi Gomez et Nazca, l'une des zones les moins connues de la planète, à tel point que dès qu'on soulève une pierre, on trouve de nouvelles espèces, raconte une scientifique dans El País. C'est un robot sous-marin, détaille le journal, qui a repéré ces coraux, oursins, calamars, poissons ou encore mollusques jamais observés auparavant. Et ce ne sont pas juste de nouvelles espèces à ajouter à un catalogue, écrit le média en ligne Infobae. Cette découverte montre aussi la nécessité de sauvegarder l'intégralité de cette dorsale aquatique en créant par exemple une zone marine protégée dans les eaux internationales.
Merci Joséphine Echelard, merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.
Europe 1 bonjour, 5h07, il est 5h13.
Dans quelques minutes dans Europe 1 bonjour, les initiatives en France, Omblin Roche.
Oui, avec ce matin des biberons d'un nouveau genre fabriqués en silicone médical pour retrouver l'expérience sensorielle du sein maternel.
Europe 1.
5h13, c'est votre histoire dingue. Anissa Dadi, vous nous racontez ce matin l'histoire d'un défi fou.
Oui, vous commencez à bien me connaître maintenant vous savez que j'ai une tendresse et une admiration particulière pour les gens passionnés. Et ce matin, je vous propose de faire la connaissance de Dominique. Il a 68 ans, il vit à Royan, en Charente-Maritime. Dominique a une très grande passion dans la vie, il est cinéphile. Sauf que Dominique, c'est un vrai cinéphile. Il regarde 300 films par an.
environ, quasiment,
un
film par jour quasiment. Il a une très grande admiration pour le réalisateur Stanley Kubrick, mais attention, Dominique n'est pas un simple homme qui aime regarder des films. Non, Dominique est un homme qui aime tout ce qui est en lien avec le cinéma.
Dominique
et l'histoire, l'histoire du cinéma. Il aime tout ce qu'il y a autour du cinéma. Il aime le lieu, le cinéma, pas que les films. Mmh. Et Dominique s'est lancé un défi fou. Faire le tour de France des cinémas. Tous les cinémas. Tous les découvrir.
Il y a du boulot. Hein.
Pendant ce tour de France, Dominique veut mettre à l'honneur les salles de cinéma françaises. Il veut toutes les prendre en photo. Les devantures, l'intérieur, respirer l'atmosphère.
Il y a de quoi faire un beau livre.
Voir
une encyclopédie.
Et son tour de France ne va pas s'arrêter là, parce que Dominique a même prévu de regarder un film dans chaque salle de cinéma qu'il va visiter.
Il va passer pas mal de temps. Il y a combien de salles de cinéma en France ?
Alors, il y en aurait entre 2500 et 3000. Alors, vous savez, il y a les grands complexes, mais il y a aussi beaucoup de petites salles.
Il y en a
encore,
moins qui parlent passé, hélas.
Mais il y en a moins qui parlent
passé. Ça en fait quand même encore beaucoup.
Bon, il se donne comme objectif de découvrir 500 salles par an. Ce qui est quand même pas mal, ça fait plus d'une salle par jour quand même.
Donc ça fait beaucoup plus d'un an le Tour de France là.
Ah oui, ça va durer entre 5 et 6 ans, d'accord. Son Tour de France. Ça va lui prendre plusieurs années. Pour l'organisation, Dominique n'a fait aucun plan très précis. Il aurait pu se faire un ordre de tournée.
Plan financier peut-être, de financement
Il faut
des sponsors là quand on part comme ça à l'aventure.
Il part avec sa petite camionnette et il dormira dans sa camionnette.
Ah oui,
on va à l'économie. Alors il va commencer son tour de France des cinémas en Bretagne cet été dans la ville de Morlaix. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est drôle, le tout premier cinéma que va découvrir Dominique et qui va inaugurer ce Tour de France sera un cinéma en plein air.
D'accord.
Bah oui, parce qu'il y en a aussi de plus en plus des cinémas en plein air en France, surtout l'été.
Si la météo s'y prête.
Oui, si la météo s'y prête, effectivement. Dominique a l'intention de mettre aussi à l'honneur, pendant son Tour de France, les cinémas itinérants. Parce que ça aussi, il y en a de plus en plus dans les villages, des cinémas itinérants. L'objectif de ce Tour de France insolite pour Dominique, c'est de mettre à l'honneur toutes ces salles de cinéma en France qu'on ne voit pas toujours, ces lieux où l'on vit des émotions. Bah oui, parce qu'au cinéma, on pleure, on rit et surtout, on se crée des souvenirs. Tiens, Alexandre Omblin, vous vous souvenez de votre tout premier film au cinéma ?
Alors écoutez, je crois que c'est Le Livre de la Jungle.
Ah, pas
vous
mal.
Voyez, avec ma maman.
Moi, je suis sûre que c'est un Disney aussi.
Mowgli.
Je suis sûre que c'est un Disney aussi. La Petite Sirène, peut-être, je ne sais plus.
Et moi, c'était génial, mes parents divorcent.
Ah,
on commence
pas. Mais il est excellent ce film.
Patrick Braudet, oui, très bon film. Bon, voilà, ça c'est la magie du cinéma, parce que pendant que vous en parliez tous les deux, on avait tous des étoiles dans les yeux.
C'est vrai.
De son premier film, de ses moments passés au cinéma. Dominique rêve aussi de rencontrer les personnes qui travaillent dans ces cinémas. Il ne va pas juste prendre la devanture et la façade en photo et aller voir un film. Non, il veut rencontrer tous ceux qui travaillent au cinéma, du directeur jusqu'à l'ouvreuse. Tout se fera au culot, au feeling, sans plan sur la comète pour Dominique. Dominique a prévu de dormir donc dans sa camionnette, je vous le disais, pendant toute la durée de ce Tour de France. Et si vous le croyez, surtout, n'hésitez pas à aller à sa rencontre.
Si on le croise, oui.
Et n'hésitez pas à parler cinéma avec lui. Moi, cette histoire de Dominique passionné de cinéma, elle me fait penser à ce film.
Je me trompe ou c'est Cinéma Paradiso ?
Vous ne vous trompez pas,
très beau film,
Philippe Noiret.
Ouais.
Au cinéma, avec cet enfant qui revit sa jeunesse grâce à un projectionniste. Et quand on apprend la vie grâce à certains films, c'est aussi l'histoire de Dominique qui va faire le tour de France.
Je serais très heureux de croiser Dominique. Ça arrive sans doute un puits de science cinématographique.
On aimerait croiser.
Merci Anissa Dadi.
Merci Anissa. Rendez-vous juste avant le journal de 5h30 pour la météo.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Europe 1, il est 5h18.
Le journal permanent, Fanny Marceau.
Première nuit de couvre-feu en Guadeloupe depuis 20h et jusqu'à 5h du matin. Tout mineur doit rester chez lui. S'il est dehors, il encourt 750 € d'amende. Couvre-feu également pour les moins de 18 ans depuis hier à Béziers, dans l'Hérault, de 23h à 6h. Mesure municipale soutenue par la population, mais qui fait l'objet d'un recours de la Ligue des droits de l'homme. Un troisième suspect en garde à vue à Grande-Synthe, dans le Nord, après le meurtre du jeune Philippe Koopman, 22 ans, cousin de l'un des deux meurtriers présumés déjà interpellés. Il a été passé à tabac vendredi soir par des inconnus qui pourraient avoir voulu faire justice eux-mêmes. L'autoroute A13 ne rouvrira pas avant le 1er mai, fermée pour cause de fissures détectées sur la chaussée entre Paris et Vaucresson à l'est de la capitale, ce qui a entraîné jusqu'à 380 km d'embouteillage hier. Après des mois de ping-pong parlementaire, les élus britanniques ont adopté cette nuit le projet de loi qui permet d'expulser les migrants arrivant sur l'île vers le Rwanda, mesure portée depuis 2 ans par le Premier ministre Rishi Sunak pour lutter contre l'immigration clandestine.
Europe 1. Merci Fanny Marceau. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans une dizaine de minutes sur Europe 1. Juste avant, on va écouter un peu de musique pour se réveiller de bonne humeur. Amblin, on va écouter qui ce matin ?
Les Beatles, réunis pour la dernière fois en studio lors de l'enregistrement de l'album Abbey Road en 1969.
Très bon réveil, 5h19 sur Europe 1. Les initiatives en France, c'est un avis aux parents et d'ailleurs aux grands-parents, y compris. On vous fait découvrir ce matin des biberons d'un nouveau genre.
Bonjour Alison Pierrot.
Bonjour Amblin.
Vous êtes la fondatrice de LA, merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez créé des biberons tout ronds. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ?
Absolument. Comme vous l'avez dit, elle est une marque française de puériculture, donc qui propose des biberons donc et autres essentiels de bébé pensés pour minimiser l'exposition aux dangers des perturbateurs endocriniens. Ils sont tout ronds, ils sont souples, en silicone, sains et incassables. On offre une expérience d'allaitement incroyablement douce et rassurante à une nouvelle génération de parents, donc exigeants.
Alors vous êtes maman, Alison Pierrot, c'est votre expérience personnelle qui vous a donné envie de lancer votre propre marque de biberon, c'est ce qui vous a donné l'idée ?
Absolument, en fait j'ai eu trois enfants que j'ai allaités et biberonnés donc, par alternance. Et sans me retrouver vraiment dans cette expérience d'allaitement au biberon que j'ai trouvé totalement désincarnée par comparaison aux émotions d'allaitement maternel que je vivais. Donc j'ai voulu repenser, réenchanter cette solution et tout en me concentrant sur la sanité du produit.
Vous souhaitez donc proposer des solutions d'allaitement sains et durables. Ils sont fabriqués, ces biberons, en silicone médical, pas de plastique. Donc Alison Pierrot, du moins, pas de plastique en contact avec le lait.
Absolument. Donc, ils sont en silicone médical, sélectionnés avec un très haut degré d'exigence. Donc, ils sont garantis sans bisphénol, F, L, Z, tous les substituts en fait que l'on retrouve aujourd'hui traditionnellement donc au BPA, qui sont interdits. Et donc, il est pensé également avec un système de fermeture unique et breveté qui exclut tout risque de migration de microparticules de plastique dans le lait des bébés. On a une collerette, en fait, il vraiment ne permet aucun contact du lait avec les éléments plastiques durs qui composent la bague et le capot du biberon, en fait.
Qu'est-ce qu'elle apporte, cette matière, le silicone médical ?
Alors, elle apporte une expérience douce et rassurante qui rappelle, encore une fois, les émotions d'allaitement maternel, en fait, voilà.
Et puis, vous êtes maman, on l'a dit, je le suis aussi, hein, Alison Pierrot, il y a le côté pratique, vos biberons passent au lave-vaisselle, c'est important quand il y a 6-7 biberons à nettoyer et ça ne les altère pas.
Exactement, ça ne les altère pas, donc elles sont complètement compatibles avec l'utilisation du lave-vaisselle et effectivement la conception a été également pensée pour une hygiène parfaite. En fait, ils peuvent se démonter et donc se laver à la main ou au lave-vaisselle. Ils peuvent être compatibles aussi donc avec l'utilisation d'autres ustensiles tels que le micro-ondes pour faciliter la vie des parents. Mais là encore, nous, on le déconseille pour d'autres raisons, hein, surtout pour le lait maternel. Mais voilà, on a pensé à une matière qui soit la plus polyvalente, la plus saine et la plus simple d'utilisation facile. Mmh.
Pas de micro, hein, mais le lave-vaisselle, hein, on l'a bien compris. Sur Europe 1, on parle des biberons. Elle est une expérience sensorielle qui rappelle le sein, on en parlait, et surtout une tétine qui facilite la digestion du bébé, Alison Pierrot.
Exactement, une tétine dite physiologique, donc dotée d'une valve anticolique. Et cette valve, conjuguée en fait à la souplesse du biberon, permet une meilleure ventilation en fait de la bouteille et minimise en fait les risques de coliques et de maux de ventre des bébés. Donc on a une solution qui elle est deux fois plus performante en termes d'anticoliques qu'un biberon rigide en verre ou en plastique.
Et vos biberons sont adaptés pour les nouveau-nés ?
Dès les premiers âges, on propose différentes débits de tétine, effectivement, adaptés au plus près des besoins des bébés, donc de la tétine XS, donc que l'on réserve aux bébés dits prématurés ou bien aux bébés allaités, jusqu'au débit L, en fait, pour les plus grands bébés qui, eux, ont des besoins d'allaitement plus gourmands, avec des soupes et autres solutions qu'on peut leur proposer en deuxième âge.
Autre démarche importante, le lieu de fabrication des produits ailés, Alison Pierrot, fabrication française.
Les biberons sont fabriqués en France, exactement, à l'exception de la tétine qui elle, est confiée aux soins d'experts allemands. Nous fabriquons 9% de nos biberons en France. Donc tous les éléments sont confiés à un partenaire industriel qui est installé en Rhône-Alpes, en fait. Et cette fabrication intervient dans un circuit court en plus, puisque toute la chaîne de fabrication se situe dans un rayon de moins de 30 km. Et on fait également intervenir un ESAT qui participe, elle, à l'étape d'emballage et de mise en étude des biberons. J'avais à cœur de produire en France et c'est une démarche de notre part qui est extrêmement engagée. Et qui s'inscrit dans le temps, puisque c'est l'un de nos piliers, en fait. C'est vraiment un des piliers de la marque.
Voilà, donc fabrication locale et engagée. J'invite les auditrices, les auditeurs d'Europe 1 à se connecter sur votre site elle.com. Ça s'écrit E-L-H-E-E. Merci beaucoup, Alison Pirot. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Elle, et je vous cite, l'alternative la plus saine et la plus sûre pour nourrir votre bébé au biberon. Bonne journée.
Merci, Ambline. Bonne journée. Au revoir.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bon réveil à tous à 5h25 sur Europe 1. N'oubliez pas que vous retrouvez Ondelat raconte cet après-midi à 14h. Faits divers et affaires criminelles. Christophe Ondelat vous raconte les histoires qui ont marqué les Français avec deux émissions spéciales, Omblin, aujourd'hui et demain.
Oui, Christophe Ondelat vous raconte des histoires de légistes tirées du livre d'un médecin légiste belge.
Ondelat raconte tous les jours de 14h à 15h sur Europe 1. Dans quelques minutes, les infos de 5h30. D'abord, on écoute les Beatles.
Oui, on traverse par la même occasion le passage piéton le plus connu d'Angleterre, extrait de l'album Abbey Road de 1969. Les Beatles pour la dernière fois ensemble en studio et avec l'enregistrement de Here Comes the Sun.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right.
C'est l'une des plus belles compositions du guitariste George Harrison, Here Comes the Sun des Beatles sur Europe 1.
Bienvenue sur Europe 1, bienvenue à tous, votre prescription culture. Tout à l'heure à 6h10, le mardi, Omblin Roche, c'est l'actu des jeux vidéo.
Oui, et Caroline Speller a choisi un jeu vidéo allemand, Harold Halibut, un jeu d'aventure inspiré de la stop motion, vous savez, cette technique d'animation image par image.
Qu'est-ce qu'on va lire avec Nicolas Caro ?
L'histoire vraie d'un célèbre couple des années 90, Caroline Bessette et John Fitzgerald Kennedy Jr., surnommé John, ça s'appelle tout simplement Caroline et John, et c'est de Stéphanie Desor. Dans un quart d'heure, votre invité Alexandre Lemaire.
Le projet de loi loi sur la fin de vie entre les mains de la commission spéciale à l'Assemblée nationale. Commission de députés, ils vont recevoir en audition tour à tour les acteurs du débat, mais pas les infirmiers. Ils font partie des soignants écartés de ces auditions. Thierry Amourou s'en dit particulièrement choqué. Le porte-parole du syndicat national des infirmiers viendra vous le dire à 6h20 sur Europe 1. D'abord le temps pour ce mardi. Anissa Haddadi, le mot du jour c'est... Gelé.
Il fait froid, ce matin on va gratter les pare-brises. Je vais vous donner les températures prévues au lever du jour. Parce que toutes les températures que je vous donne quand je vous parle du matin, à chaque fois c'est pour le lever du jour, parce que c'est le moment où il fait le plus froid. Lever du jour, tiens, qui aura lieu à 6h23 à Strasbourg, 6h44 à Paris et 7h04 pour Bordeaux. Alors moins 3 ce matin à Guéret, moins 2 à Rodez, 0 degrés à Besançon et Châteauroux, 3 degrés à Paris, 4 à Lyon et Bordeaux, 8 à Nice, 9 à Biarritz. Ce sont les températures ce matin au lever du jour. Cet après-midi, 8 degrés pour Annecy, 10 à Clermont-Ferrand et Dunkerque, 11 degrés à Lille, 12 à Bordeaux, 13 à Nice, 15 degrés à Brest et Nîmes et 16 à Marseille. Dans le ciel. Alors dans le ciel, c'est très agité entre les Alpes et la Côte d'Azur jusqu'en Corse. On a un ciel couvert avec des averses fréquentes, toujours de la neige en montagne, 400 mètres sur le massif central. C'est couvert également dans le nord-ouest sur la Bretagne et la Normandie et couvert entre le Pays Basque et les Pyrénées. Partout ailleurs, si vous n'êtes pas dans l'une de ces régions, vous aurez droit au soleil.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
À la une de l'actualité, comment lutter contre l'insécurité à Toul, en Meurthe-et-Moselle? Des commerçants choisissent de se tourner vers l'autodéfense. Reportage en début de journal. À Béziers, le maire emploie des moyens radicaux contre les incivilités nocturnes. Couvre-feu obligatoire dès 23h pour les mineurs de moins de 13 ans. Au Royaume-Uni, le Parlement adopte le projet de loi controversé sur l'expulsion des clandestins vers le Rwanda. La France a froid, 2 degrés cette nuit à Amiens. Les agriculteurs s'inquiètent de voir le gel détruire à nouveau leur récolte. Et puis, dans la série La vie est un éternel recommencement, le retour des gardes champêtres. Ils veillent au grain, ils protègent nos forêts. Les communes en recrutent à tour de bras. Il est 5h30, le journal. Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est une autre illustration de la France de la débrouille chère au politologue Jérôme Fourquet. Faute de pouvoir compter sur l'État, on se tourne vers la solidarité et l'entraide. À Toul, en Meurthe-et-Moselle, l'insécurité exaspère les commerçants. Eh bien, ils disent stop à leur manière. Plutôt que de se tourner vers la police, ils prennent désormais des cours d'autodéfense. Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Reportage.
On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Vous sortez de votre commerce ce soir.
Première leçon, parer une attaque au couteau en utilisant son sac comme bouclier.
Vous voyez, et regardez, au ralenti ce que je fais.
Sept commerçants participent cet après-midi au cours de Patrick Petitjean, spécialiste du self-défense. Ils sont fromagers, assureurs ou encore photographes comme Grégory.
Je fais ce stage pour une raison très simple, c'est qu'en l'espace de 3 ans, on a eu 2 agressions au studio. Donc c'était, je pense, le moment à prendre à gérer le conflit, pouvoir se défendre. C'est quelque chose qui est très important à l'heure actuelle, même si je ne pensais pas qu'un jour on en aurait besoin.
C'est Catherine Gournet, coiffeuse et présidente de l'association des commerçants de Toul, qui a souhaité cet atelier.
Ça va nous apprendre à gérer notre stress. On voit aussi la progression au niveau national, quoi. Les agressions qui se multiplient, donc on se dit pourquoi pas dans notre ville, surtout qu'on a eu droit à plusieurs braquages en début d'année.
Un ancien policier explique également comment répondre à une agression verbale en adoptant le bon ton, la bonne attitude, car le mieux, c'est encore d'éviter le conflit.
Allez.
Toul, Mélina Fachin, Europe 1.
Mais l'autodéfense comme moyen de protection à Toul, on vient de l'entendre. Du côté de Béziers, le maire Robert Ménard vient de décréter le couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Interdiction de mettre le nez dehors au-delà de 23 heures. Seule solution, estime la mairie, pour ramener le calme en ville et redonner envie aux gens de sortir de chez eux sans crainte. Reportage étonnant de Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.
Les patrouilles de police ont tourné jusqu'à tard hier soir. Leur but, vérifier qu'aucun mineur de moins de 13 ans ne vagabonde dans les rues de Béziers. Et cela rassure Frédéric dans son restaurant ouvert jusqu'à minuit.
Il y a des petits cons qui cherchent toujours des petites histoires. Ça crie à toutes les heures. La réalité, elle est là. Ils sont de plus en plus jeunes. Ils emmerdent le monde.
Mesure également bien accueillie par les riverains du centre-ville, lesquels souvent refusent de sortir le soir.
Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, habiter en ville, c'est pas simple. On voit des bandes de jeunes, poubelles renversées, des coups de pompe
pas des voitures. Ça dérange la vie normale des gens.
Moi, personnellement, moi, je sors pas le soir. Hein. C'est trop insécure. Et puis, si c'est pour sortir, avoir peur, non, c'est bon, quoi. Le couvre-feu, ben, c'est très bien.
Reste désormais à savoir si ce couvre-feu survivra. La Ligue des droits de l'homme de l'Hérault a déjà demandé au préfet de contrôler la légalité de cet arrêté. À Béziers, Charles Lullier, Europe 1.
Ouverture d'une enquête judiciaire pour tentative d'homicide dans les Landes. Le chanteur Kenji Girac va mieux, il est toujours hospitalisé à Bordeaux. Première courte déclaration aux enquêteurs pour donner sa version des faits. Une mauvaise manipulation d'une arme qu'il avait achetée chez un brocanteur récemment.
Il est 5h34 sur Europe 1. La vague de froid qui touche la France en ce moment inquiète particulièrement le monde paysan.
Et on était en dessous de 0 cette nuit du côté du Massif central. Le froid sévit partout, pas tellement étonnant à cette période de l'année, vous me direz. Le gel peut encore surprendre. Branle-bas de combat tout de même dans les exploitations. Les bougies dans les vignobles pour empêcher le gel de détruire les grappes. Même chose pour les fruits et les légumes. Reportage à Seclin près de Lille. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
Cela fait quelques jours maintenant que Xavier Collette, le patron de la ferme du Paradis, se prépare à cet épisode de gel.
Avec les équipes, depuis vendredi, on a préparé le matériel, on a remis en route les systèmes, on a mis les voiles de protection, on a revérifié nos alarmes.
17 hectares de cultures maraîchères, 3 hectares d'arbres fruitiers qu'il faut protéger, notamment les cerisiers sensibles à 1,5 degré au-dessous de zéro.
Là, dans le verger, les petits pots blancs que vous voyez, c'est des grosses bougies de cire. On sait que si on en allume 200 ou 250 à l'hectare, on va gagner 1 degré ou 1 degré et demi qui peut réchauffer l'atmosphère générale autour du verger et qui peut du coup nous permettre de sauver les cerises du gel.
Mais c'est pour les pommiers en fleurs que la méthode est la plus efficace. On appelle cela l'aspersion, c'est-à-dire l'arrosage du verger en cas de gel.
On allume là aussi à une certaine température. Le verger du coup se couvre d'eau et avec le gel, ça fait un peu le même principe qu'un igloo. Dans un igloo, vous avez toujours, il fait plus chaud. Et bien là, c'est exactement la même chose. La coque de glace qui se forme autour du fruit ou autour de la fleur va protéger le fruit du gel qui sera là pendant la nuit.
Et le producteur restera sur le qui-vive jusqu'au sein de glace au début du mois de mai. Vigilance continue car une seule nuit de gel peut condamner toute une récolte. À ce clin, Lionel Gougelot, Europe 1.
Les automobilistes franciliens vont devoir faire preuve de patience. L'autoroute A13 restera fermée entre Paris et Vaucresson jusqu'au 1er mai. Au moins, délai soumis à modification en fonction des conditions de sécurité et de l'avancée des travaux de remise en état.
Outre-Manche, Christophe, la Grande-Bretagne va bien expulser ses migrants vers le Rwanda.
Adoption cette nuit de ce projet de loi très controversé par le Parlement, mesure phare du gouvernement de Rishi Sunak pour lutter contre l'immigration clandestine. Le Rwanda accueillera les migrants refoulés par les autorités britanniques en échange d'une aide financière. La potion amère donnera-t-elle des fruits en Argentine? Le pays enregistre son premier excédent public trimestriel depuis 2008, résultat communiqué par le très libéral président Javier Milei, qui a largement taillé dans les dépenses de l'État pour ramener les comptes à l'équilibre.
C'est un métier qu'on pensait voué à disparaître. La nécessaire préservation de l'environnement le remet finalement au goût du jour. Le garde champêtre redevient tendance, Christophe.
Oui, celui qui protège les forêts. Si vous aimez marcher des heures en pleine nature, ce métier vous comblera. Moins de 700 gardes champêtres aujourd'hui. Il y en avait plus de 30 000 il y a 50 ans. La prise de conscience environnementale, vous l'avez dit, et les incivilités écologiques ont redonné ses lettres de noblesse à la profession. Maxime Gondelot a rencontré Geoffrey Servoir, garde champêtre de forêt la forêt domaniale de la Malmaison à Rueil-Malmaison. Reportage.
Alors là, on va faire une patrouille déjà en forêt, comme on fait quasiment tous les jours.
Dans sa voiture électrique, Geoffrey passepoil et polo bleu marine, 9 mm à la ceinture, arpente les sentiers de la forêt au ralenti. Dans son collimateur, les dépôts sauvages et le comportement des usagers.
On est susceptible au moins d'aller vérifier quand on a des gens qui font des coupes ou du ramassage. On peut vérifier aussi les cueilleurs de champignons et les gens qui viennent ramasser les fruits de la forêt au sens large du terme.
Un rôle important en tant qu'agent de police judiciaire.
Tout l'intérêt du garde champêtre, justement, c'est que nous, on peut aller enquêter parce que nos collègues de la police municipale, eux, ils ne peuvent que se borner à constater les faits. Nous, on transmet un dossier complet au procureur. Finalement, le garde champêtre, il coche à la fois la case sécurité et la case environnement.
Et justement...
Hop ! Il y a des panneaux un peu partout, la barrière est ouverte.
Il n'y a pas de panneaux.
Mais si, il n'y a pas de sens interdit.
L'homme fait demi-tour. Les incivilités restent le problème numéro un de Geoffrey, mais il constate toutefois des comportements plus respectueux de l'environnement.
Et nous voici de retour à la case départ.
Reportage Maxime Gondelot. Il fait froid, mais le soleil brille. Et à ce sujet, tient l'inquiétante étude de l'UFC Que Choisir sur les crèmes solaires pour visage. L'association a testé les indices maximum, à savoir 50 ou 50 plus. Et bien sûr, sur 13 crèmes passées au crible, 5 n'affichent pas le niveau de protection annoncé sur l'emballage.
Eh bien, c'est rassurant, dites-moi. Merci Christophe Lamarre.
L'association a porté plainte. Hein,
bien eh sûr. Bien, j'espère bien. Merci à vous Christophe Lamarre. 5h38 sur Europe 1. Bon réveil à tous. Dans 2 minutes, c'est le jour où un moment d'histoire avec les archives d'Europe 1. Aubin Roche.
Oui, on va revenir sur le voyage de Thomas Pesquet à bord d'une fusée SpaceX. C'était le 23 avril 2021.
D'abord, les pronostics du Quintet sur Europe 1. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre. C'est sur les 3600 mètres du parcours de haie de l'hippodrome de Compiègne que va se courir ce Quintet. Une course aux trois attelés qui réunira 16 chevaux, tous âgés de 4 ans. Et pour bâtir mon pronostic, j'ai fait confiance aux concurrents qui ont fait l'arrivée d'un Quintet similaire le 24 mars sur l'hippodrome d'Auteuil avec les numéros 3 Hasta la Vista, 6 Quelle Story et 2 Caliandra classés dans cet ordre aux 3 premières places. Et sur la foi de cette performance, ce sont à l'évidence des priorités pour conclure dans les 5 premiers. On leur opposera les numéros 10, Kamenjin, arrivé 7e du quintet référence et annoncé depuis en progrès par son entraîneur Giada Menato. 9, Attaque Massive, dont j'ai entendu le plus grand bien le matin sur les pistes d'entraînement dans les milieux bien introduits de l'obstacle. Et 5, Mohican, dont la course de rentrée est franchement trop mauvaise pour être exacte. Enfin, les numéros 11, Magic Flight et 7, Blissimo compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 6, 2, 10, 9, 5, 11 et 7.
Vous retrouvez ces pronostics dès maintenant sur l'appli Europe 1 et sur Europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Bien ce week-end.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. L'espoir.
Europe 1. Bon réveil, il est 6h20, le jour où l'histoire racontée à travers les archives d'Europe 1.
Bonjour, Lord d'Autriche.
Bonjour à tous.
C'était aussi un 23 avril, il y a tout juste 3 ans, en 2021. Thomas Pesquet s'envole pour la Station Spatiale Internationale à bord d'une fusée américaine SpaceX. C'est alors une première, ils sont 4 astronautes à bord. C'est le deuxième voyage de Thomas Pesquet vers l'ISS. Europe 1 suit alors cette mission depuis la France et depuis la Floride aux États-Unis. Dans la base même, la base spatiale d'où Thomas Pesquet a décollé.
Oui, ça n'a plus rien à voir avec les fusées historiques russes Soyouz que Thomas Pesquet connaissait. Avec SpaceX, tout est futuriste. Aucun bouton à l'intérieur de la capsule. Les astronautes ont face à eux 3 écrans tactiles. Et pour eux, eh bien, combinaison blanche conçue par des costumiers d'Hollywood. J'avais interrogé Thomas Pesquet sur Europe 1 quelques jours avant le décollage. Il redoutait plus son deuxième voyage dans l'espace que le premier 5 ans plus tôt.
Mentalement, oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que, on sait à quoi on s'expose. En fait, la première fois, on part à l'aventure, on sait que ça va être difficile parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on l'imagine, mais on ne sait pas exactement à quel point, on ne sait pas exactement quand ça va être difficile. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose. Hein.
C'est la première fois alors que SpaceX emmène un astronaute européen dans l'ISS. Énorme succès pour l'entreprise américaine, analyse le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Benoît Clerc.
SpaceX fabrique aujourd'hui quasiment une fusée par jour, là où il y a 2 décennies, on en faisait à peine une tous les 2 mois.
Après 23 heures de vol, les voilà arrivés et quelques heures plus tard, en apesanteur, en t-shirt et en chaussettes, Thomas Pesquet fait visiter la station spatiale en vidéo à ses fans et il leur montre la Terre.
Merci de voler avec nous et bienvenue à bord. Si on se rapproche, on peut voir à travers le hublot. Nous sommes au-dessus de Madagascar là, mais c'est assez nuageux. On a peu de visibilité.
En 6 mois dans l'espace, il aura fait une centaine d'expériences scientifiques et à son retour sur Terre, il n'a qu'une seule envie, repartir.
Je connais beaucoup d'astronautes, j'en fais peut-être partie quand ils partent dans l'espace. Ils disent bon, cette fois, c'est la dernière fois parce que quand même c'est dur, parce que quand même on souffre, parce que quand même on est loin des siens. Et puis après, au bout de 6 mois, ils ont tout de suite envie de repartir.
Mais après 6 mois en apesanteur, la colonne vertébrale s'est allongée. Thomas Pesquet a grandi de 5 cm qu'il a perdu immédiatement à son retour sur Terre. Mais il mettra 1 an à retrouver la densité osseuse qu'il avait avant son départ.
Merci Lord d'Autriche. Réalisation sonore, Sébastien Guidis.
Allez, on joue à présent avec le jour où et pour vous offrir alors les pieds sur Terre. Hein, une
les
croisière,
pieds sur Terre.
Ou plutôt les pieds presque dans l'eau.
Voilà.
Une croisière de 5 jours avec Croisi Europe pour découvrir les trésors vinicoles du Sud-Ouest. On vous emmène du côté de Blaye, Libourne, Saint-Émilion. Ce sont les étapes de cette croisière. Vous allez découvrir le Médoc, avec à bord une cuisine raffinée, des boissons, des animations. Il y a même des visites guidées prévues. CroisiEurope.com pour tout savoir.
Le cadeau que les astronautes nous envient. Alors, absolument, la question du jour, pour tenter votre chance, chers auditeurs, combien d'astronautes, justement, se trouvaient à bord de la capsule SpaceX ? Étaient-ils 3 à bord, réponse A, ou 4, réponse B ?
Vous répondez par SMS et vous envoyez croisière au 7 39 21, 2 fois 75 centimes hors coût du message. Bonne chance à tous.
Bonne chance à suivre sur Europe 1, votre rendez-vous culture. Quel est le programme ce matin, Ombline ?
Le jeu vidéo d'aventure Harold Halibut, ainsi que Caroline et John. Ça, c'est le livre de Stéphanie Desor.
5h, 7h.
Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire, Ombline Roche.
Europe 1, il est 5h43.
C'est donc un marathon législatif qui commence pour le projet de loi sur la fin de vie. Le texte est depuis hier entre les mains de la commission spéciale à l'Assemblée. Alors cette commission, c'est 71 députés de tous bords politiques. Leur rôle, eh bien, il va consister à auditionner les acteurs concernés par cette réforme qui vise à mettre en place une aide à mourir. L'idée est de remodeler le texte, en tout cas de le préciser autant que nécessaire. Mais beaucoup de soignants, pourtant en première ligne, des gériatres, des infirmiers, ne sont pas conviés à ces débats. Et ils s'en indignent.
Vous en parlez avec votre invité sur Europe 1, Alexandre. Thierry Amouroux est porte-parole du Syndicat national des professionnels infirmiers.
Bonjour Thierry Amouroux.
Bonjour.
Sur cette question délicate de la fin de vie, on voit tout de même une certaine volonté du gouvernement de donner un certain temps au débat. Alors il y a en France plus de 750 000 infirmières et infirmiers. Ces débats, est-ce que vous allez y être associé ?
Pas du tout. Ce qui nous choque, c'est justement ce mépris envers notre profession. Les représentants des organisations infirmières, des syndicats, des associations infirmières ne seront pas entendus. On a demandé à l'être et on n'est pas prévu au programme. Ça nous renvoie à l'image qu'on serait de simples agents d'exécution, dans tous les sens du terme, avec ce projet de loi sur l'euthanasie et la fin de vie.
C'est-à-dire, vous avez demandé à être entendu par cette commission spéciale des députés et on vous l'a refusé, Thierry Amouroux ?
Oui, on n'a pas daigné nous répondre. Donc, on est extrêmement choqués parce qu'effectivement, nous sommes la profession de santé numériquement la plus nombreuse. Hein. Il y a 3 fois plus d'infirmières que de médecins. Le projet de loi nous cite à 6 reprises pour participer à cette euthanasie et suicide assisté.
Vous parlez d'euthanasie et de suicide assisté. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que ni l'un ni l'autre ne sont nommés dans le projet de loi. Hein. On parle d'aide à mourir.
Bien sûr, c'est tout à fait dans le style de tourner autour de la réalité.
Vous dites donc, effectivement, en cas d'aide à mourir, je reprends le terme de la loi, hein, vous, les infirmiers, vous serez directement impliqués dans le processus. C'est ce que prévoit le texte.
Oui, le texte prévoit que nous pouvons intervenir soit de manière directe, soit dans la formule choquante de Madame Lebaudeau lors...
Ancienne ministre de la Santé, oui.
Du secourisme à l'envers, le fait de venir achever quelqu'un qui se serait raté au moment de son acte.
Donc vous serez impliqué dans tous les cas ou pas dans tous les cas dans la mise en œuvre du geste létal en quelque sorte, Thierry Amouroux ?
Oui, il est prévu que ce soit un médecin, un infirmier ou alors une tierce personne, ce qui pose un vrai problème d'ailleurs, hein, parce que ça veut dire que l'entourage de la personne pourrait intervenir avec tous les risques que ça peut poser à la fois en termes de conscience et à la fois en termes d'héritage.
Si vous étiez invité à participer au débat, que diriez-vous aux députés sur ce texte sur la fin de vie ?
Alors nous, on est vraiment inquiets par rapport aux personnes les plus vulnérables, parce que c'est ça le nœud du problème, c'est par rapport aux personnes âgées qui sont en EHPAD ou aux personnes handicapées en institution. On voit bien tout le risque qu'il peut y avoir autour de la pression familiale et de la pression sociétale, avec l'idée de à quoi bon continuer à vivre. Donc il y a un vrai risque de pression familiale à partir du moment où il y aura un permis de tuer qui sera donné, y compris à des tierces personnes. Et puis, il y a tout le problème de l'utilité sociale. Vous savez qu'il y a des pays anglo-saxons qui, déjà, à partir d'un certain âge, décident de ne plus dialyser ou de plus autoriser les greffes. Aujourd'hui, en France, il y a tout le débat sur les patients en ALD et le fait qu'ils coûtent cher.
En ALD ?
Donc, on est vraiment très inquiets.
En ALD, traduction ?
Les personnes qui ont des maladies chroniques. Oui, comme des cancers. Oui.
Alors, je reprends, il y a une expression que marquante que vous venez d'employer, Thierry Amouroux, vous parlez de permis de tuer. C'est cela pour vous, l'aide à mourir qui est en train d'être mise en place ?
Tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi permet d'accompagner correctement les personnes. C'est-à-dire que lorsque vous avez des personnes en fin de vie, on peut les accompagner au mieux de façon à soulager la douleur physique et la douleur psychique. Et puis, entre l'accoutumance et l'évolution, on peut être amené à augmenter progressivement les doses de morphine, dite nouvelle, jusqu'à ce qu'à un moment, ça ait une conséquence létale pour la personne. Mais ce n'est pas l'intention. L'intention,
vous,
c'est de soulager la personne. Or
pour
là,
vous,
on est dans une idée complètement différente avec l'euthanasie et le suicide assisté, où on arrive avec une seringue pour tuer une personne.
Les psychiatres disent entendre tous les jours des demandes de suicide de la part de patients gravement malades, mais des demandes, disent-ils, qui varient dans le temps. La question à laquelle ils ne savent pas répondre, c'est qu'est-ce qui permet de dire que le temps qui reste à vivre à un patient mérite d'être vécu ou non ? C'est un sentiment que vous partagez ?
Oui, parce qu'il faut bien comprendre que en tant que soignant, on ne vient pas là discourir en tant que sachant, mais on a une expérience qui fait que nous, au quotidien, on est auprès de personnes en fin de vie qui peuvent parfois exprimer le désir de mourir, et puis deux heures après, une fois qu'on a soulagé leur douleur, faire de nouveaux projets de vie autour d'un événement familial comme un mariage, un anniversaire. Et donc, on voit que le discours est fluctuant. C'est ni tout blanc, ni tout noir. C'est vraiment un entre-deux qui est tout le lieu de la discussion morale, de la singularité de la personne. Donc, une loi générale ne peut en aucun cas améliorer les choses et pose vraiment le risque des personnes vulnérables en institution. On est très inquiets pour elles.
Oui. Eh bien, effectivement, on a entendu ce matin votre vive inquiétude ce matin sur Europe 1. Qu'allez-vous faire ? Vous allez renouveler votre demande à être reçue par les députés en audition, Thierry Amouroux ?
Oui, on continue à appeler, à envoyer des courriers pour demander à être entendu. Pas simplement venir pour cocher une case, mais qu'ils comprennent les risques qu'il peut y avoir. Parce qu'on a bien vu que dans les autres pays, là où les choses se sont faites, au début c'était cadré, et puis une fois que la digue a sauté, les choses ont fait que après on s'en est pris aux patients psychiatriques, on l'a autorisé pour les enfants, etc. On est très inquiets.
Bien, en tout cas, après cette période de débat préliminaire dont vous êtes écartés, je le rappelle, vous les infirmiers, ce texte sera examiné en séance par les députés à partir du 27 mai et le vote est prévu 15 jours après. Merci Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers ce matin sur Europe 1. Merci à vous.
Merci de nous avoir laissé la parole.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bienvenue à tous sur Europe 1. Très bon réveil. Dans un instant, l'actualité des jeux vidéo. Ce sera après le journal permanent à 6h10. Christophe Lamar.
Enquête judiciaire ouverte pour tentative d'homicide dans les Landes. Après la blessure par balle de Kenji Girac, le chanteur va mieux, mais il reste hospitalisé. Première courte déclaration aux enquêteurs pour donner sa version des faits. Il aurait fait une mauvaise manipulation de l'arme achetée chez un brocanteur. L'autoroute A13 restera fermée entre Paris et Vaucresson jusqu'au 1er mai au moins, délai soumis à modification en fonction fonction des conditions de sécurité et de l'avancée des travaux de remise en état. La Grande-Bretagne va expulser ses migrants vers le Rwanda, projet de loi adopté cette nuit par le Parlement, mesure phare du gouvernement de Rishi Sunak pour lutter contre l'immigration illégale. Le Rwanda accueillera les clandestins refoulés par les autorités britanniques en échange d'une aide financière. Et puis l'inquiétante étude de l'UFC Que Choisir sur les crèmes solaires pour visage. L'association a testé les indices maximum, à savoir 50 ou 50 plus. Sur 13 crèmes passées au crible, 5 n'affichent pas le niveau de protection annoncé sur l'emballage.
Merci Christophe Lamar, le journal de 6h, dans un peu plus de 5 minutes sur Europe 1.
Europe 1, bonjour, 5h, 7h à 5h52, c'est votre rendez-vous culture.
Et comme chaque jour, d'abord un bon livre avec vous Nicolas Carreau, bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Ce matin, vous nous parlez d'un livre consacré à l'histoire d'un couple célèbre des années 90, Nicolas.
Signé Stéphanie Desor, Caroline et John, c'est le titre. Caroline, c'est Caroline Bessette, et John, c'est bien sûr John Fitzgerald Kennedy Jr., le petit bonhomme qui faisait un salut militaire devant le cercueil de son président de père.
Mais le petit bonhomme, dites-vous, que l'on surnommait John, hein, et qui est mort dans un accident d'avion, Nicolas.
Voilà, en juillet 99, c'est lui qui pilotait, il y avait aussi Caroline donc, et sa sœur Lorraine Bessette, mais ça c'est la fin de l'histoire. Stéphanie Desor, dans ce qui ressemble à un biopic ou une biographie romancée, c'est-à-dire que tout est vrai, mais les dialogues et les situations sont réinventés, reconstitués. Stéphanie Desor donc recommence par le début avec John et sa mère Jackie et son beau-père Onassis, dont le fils Alexandre lui transmet sa passion pour le pilotage. Bon, on se rend compte assez vite que Stéphanie Desor n'a eu qu'à se pencher pour construire le roman du couple glamour. On passe d'anecdotes incroyable en situation dingue. À l'université, John est hyper convoité. Bien sûr, c'est un prince, mais un prince étourdi qui perd tout le temps, y compris l'argent liquide, et donc il évite de se balader avec. Quand il en a besoin, il fait un chèque de $100 à l'un de ses copains qui lui donne l'équivalent en billets. Mais un jour, John lui dit « C'est bizarre, tu n'encaisses jamais les chèques que je te fais. » Et non, répond l'autre, « Je les revends $500 à tes fans qui les encadrent et ne les encaissent jamais. » Ou la fois où une étudiante vire les affaires de son ami et colloque du campus pour s'installer carrément avec lui, elle met ses affaires et tout, elle sera évacuée par la sécurité.
Mais dites donc Nicolas, vous n'avez toujours pas parlé de Caroline ?
Elle arrive, et bien entendu, c'est celle qui ne le regarde même pas. Froide, malicieuse, extravagante et volage, voilà comment elle est dessinée au début. « Pauvre mortel », écrit Stéphanie Desor, « passez votre chemin, cette fille n'est pas pour vous ». Mais on parle aussi de son regard incisif, mi-coquin, mi-intrusif. Et cette manière de bouger la tête et de sourire, l'air de rien, l'air de beaucoup plus. Elle ne doit pas mettre plus de 5 minutes à s'habiller, c'est une reine. Elle a quelque chose de mystérieux et d'addictif. Cette description, c'est Kelly Klein qui l'a fait, la femme de Calvin Klein. Elle a croisé Caroline, alors vendeuse dans une boutique de la marque. On les suit dans leur vie incroyablement romanesque, leur déchirement, leur lubie, la création du journal George, comme George Washington par exemple, via les Français, et Hachette Filipacchi d'ailleurs, et jusqu'au dernier vol donc, tragique, et qui participe à la légende.
Caroline et John, signé Stéphanie Desor, et c'est chez publié chez Albin Michel. Merci Nicolas Carreau.
L'actualité des jeux vidéo, le mardi matin avec Caroline Speller.
Bonjour Caroline.
Bonjour Amblin, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Le jeu vidéo de la semaine pour vous, il s'appelle Harold Halibut. Alors c'est la première production d'un studio allemand qui s'appelle Slow Bros. C'est un jeu qui se distingue à la fois par son histoire, Caroline, et par son identité visuelle.
Oui, je vous propose une aventure qui nous transporte à bord d'un vaisseau terrien de colonisation spatiale envoyé il y a 250 ans, qui s'est écrasé sur une planète océanique. Transformée depuis en ville sous-marine, nous, on incarne Harold Halibut, homme à tout faire qui n'a jamais connu la Terre. Du genre apathique mais attachant, il répond aux requêtes des habitants sans se plaindre, tout en rêvant de trouver un sens à son existence. Alors sa rencontre avec un alien marin va lui ouvrir cette voie.
Vous nous parlez bien d'un jeu vidéo, mais en fait on est davantage dans une expérience narrative, pour ne pas dire cinématographique, hein.
Oui, ici, pas de mécanique révolutionnaire ou compliquée au rythme frénétique. Harold Halibut est à l'image de son anti-héros mélancolique. Un jeu qui prend donc son temps, où on doit faire des allers-retours, parler à des gens et résoudre des énigmes on ne peut plus simple. Car ce qui est important, c'est le développement du protagoniste, comme dans un film de Wes Anderson, connu entre autres pour The Grand Budapest Hotel. Harold Halibut s'inspire du réalisateur et propose un jeu avec des personnages décalés, loufoques, qui poussent Harold à se questionner sur l'absurdité de sa vie.
Et Caroline, le jeu a une autre influence, celle des films d'animation en stop motion, qui consiste à créer image par image des mouvements à partir d'objets immobiles.
Oui, vous vous souvenez de Wallace et Gromit et Chicken Run?
Ah bah oui.
Ces films avec des personnages en pâte à modeler. Harold Halibut, c'est exactement ça. Tous les personnages, décors et accessoires ont été conçus à la main, ensuite numérisés et animés par un ordinateur. Un travail artisanal et titanesque qui aura pris plus de 10 ans. On est loin des jeux vidéo rendus toujours plus réalistes, mais cela n'en reste pas moins bluffant et impressionnant de petits détails. Harold Halibut est à télécharger sur PC et les consoles PS5 et Xbox.
Merci Caroline Speller. Harold Halibut, c'est un jeu donc à retrouver dès maintenant sur toutes vos plateformes.
Merci de vous réveiller avec Europe 1. Vous écoutez Europe 1, bonjour, 5h-7h. La suite avec votre interview éco, Alexandre Lemaire, à 6h40.
Oui, après le journal de 6h30, l'alerte au gel est sur les cultures. Vous savez qu'elles ont commencé à bourgeonner en avance cette année. Or, avec le yo-yo du thermomètre, voici les gelées de fin avril. Les viticulteurs et les arboriculteurs en première ligne. Ils craignent une fois de plus de perdre toute leur récolte en quelques minutes, en quelques nuits. Alors qu'on traverse les nuits les plus froides, eh bien, on va voir la situation ce matin avec Jérôme Vol, il est vice-président de la FNSEA et viticulteur en Ardèche. Rendez-vous avec lui à 7h20 sur Europe 1.
Il est 5h58, ne manquez pas le pressing dans 10 minutes après le journal.
À 6h20, Omblin, votre partition.
La musique était mon premier amour et il sera mon dernier, des paroles de John Miles. L'histoire de John Miles et de son hymne Epic Music dans 20 minutes.
Dans un instant, les infos de 6h sur Europe 1. Mais d'abord, côté ciel, Anissa Dadi, le temps sera perturbé ce mardi pour le sud.
Oui, pour le sud-est et le sud-ouest. Alors le sud-est, d'abord, ce matin, c'est compliqué entre l'Auvergne et les Alpes. On a une poche nuageuse là, entre le Massif central et les Alpes, avec de la neige à partir de 400 mètres sur le Massif central, à basse altitude donc, et 700 mètres pour les Alpes. Des nuages, des averses fréquentes et toujours du mistral dans la vallée du Rhône et de la Tramontane dans son secteur, jusqu'à 80 km/h. Ça souffle encore fort et le mistral, on le sait, il rafraîchit nettement l'atmosphère. C'est agité également en Corse, avec de la neige en montagne et des averses fréquentes, sauf sur le sud de la Corse, où là on aura quelques belles éclaircies. Dans le sud-ouest, entre la Gironde et le Pays Basque, jusqu'aux Pyrénées, les nuages sont fréquents, le ciel est gris foncé avec des averses et de la neige des 800 mètres sur les Pyrénées. Ça va beaucoup mieux sur la moitié nord. Alors là, on a un ciel dégagé ce matin, de très belles éclaircies, sauf sur la Bretagne et le Cotentin. Le long des côtes de la Manche, on a un ciel gris avec des petites averses, notamment sur la presqu'île du Cotentin. Les températures. Alors les températures, elles sont négatives ce matin, on vous en parle depuis plusieurs jours. Mais on a moins 3 degrés à Guéret, moins 2 à